Bonjour, rassurez-vous, Michel Tomega est bel et bien là aux manettes. Il va être rejoint incessamment par Jérôme Dakoucha. Rassurez-vous, Sass est également au studio avec ses confrères autour de lui. Et l'homme Kossi Atichogbe, bonjour.
Sass, bonjour. Bonjour aux confrères, bonjour Canal FM et bonjour à toutes et à tous. Je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler la nécessité de pouvoir réguler la circulation sur la route Lomé-Palimé, la grande route en construction. Il y a des élèves de 5-6 ans qui sont généralement victimes d'accidents sur cette route-là. Je rappelle que c'est une route qui n'a ni feu tricolore, ni passage clouté et qui est spacieuse. La dernière fois, un élève de 5 ans a été fauché par une moto qui roulait à vive allure pendant que l'élève se rendait à l'école. Hier, un véhicule a failli tamponner un autre élève de 6 ans. S'il vous plaît, trouvons une solution pour réguler la circulation sur cette route.
Merci. Le club La Presse s'associe à cet appel en saluant le monsieur vendeur de chaussures au niveau d'Amoutievé, un peu en contrebas de la colombe de la paix, lui qui s'offre pour aider et les jeunes et les petits-enfants et les vieux et les vieilles et les malades à traverser. Chers amis, nous vous saluons, tout comme nous saluons également l'association Prévention routière togolaise qui a lancé depuis lundi une campagne de réglage de phares. Donc, aidons les petits-enfants, les personnes d'âge avancé à traverser nos routes. Réglons les problèmes sur la route Lomé-Palimé au niveau de Adido-Gomé jusqu'à Sanguera. Oui. Et puis allons régler les phares de nos véhicules. Et ma gloire, quand je dis réglage de phares, c'est aussi bien pour les voitures que pour les motos.
Bien entendu, il s'agit donc de tout engin qui entre en circulation. Et bien entendu, ce n'est pas seulement qu'une question de voiture, mais également, comme vous l'avez dit, des motos. Mm-hmm. En tout cas, tous les engins qui sont en circulation, parce que c'est aussi la vie de l'humain qui en dépend. Et donc, à un moment donné, il faut quand même savoir marquer une petite pause pour checker, n'est-ce pas, nos engins qui nous permettent d'être en mouvement au quotidien, parce que on semble l'ignorer très souvent, mais quand vous prenez les causes, n'est-ce pas, des accidents qu'on essaie de nous répéter au niveau du ministère de la Sécurité, de la Protection civile et au ministère des Transports, à côté des causes humaines, on nous révèle toujours et toujours des causes techniques. Et parmi ces causes techniques-là, il y a bien entendu des défauts d'engins comme les phares, comme les freins, comme tout ce qui va avec. Et donc, je crois que cette association a bien fait de relancer le débat. Et c'est un mouvement d'ensemble, c'est un processus de mise à jour de nos connaissances à la matière.
Bravo. Merci. Le réglage des phares se fait au niveau du Palais des Congrès, également au niveau de GTA, et un troisième endroit que j'oublie, mais que de bonne volonté vont nous rappeler. Oui, Magloire.
Oui, tout à fait. Vous avez fait un clin d'œil, n'est-ce pas, à une bonne volonté qui se permet, n'est-ce pas, de réguler la situation au niveau d'Amoutivé.
Oui.
Et je constate également qu'il y a une bonne volonté sur la bretelle d'Atikoumé.
Klikamé.
De Klikamé, qui le fait aussi merveilleusement, si bien. Je ne le connais pas, mais...
Moi, je le connais et je m'associe à toi pour le saluer également. Jean Legrand pour le René, bonjour.
Sass, bonjour. Bonjour à Elomé Magloire. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM et aux techniciens derrière la baie vitrée qui nous suivent.
Aujourd'hui, tu vas nous donner ton prénom du pays Togo.
Oui, mon prénom c'est Oulo.
Oulo,
Oulo. Oui, okay. Qui veut dire le chef.
Oulo, c'est donc beaucoup mieux que Jean Legrand là.
Non, on a un seul chef ici.
Alors, ça veut dire... Tchadia est le chef de la COSA, moi je suis le chef de la BINA.
Ah bon. Eh bien, c'est parti donc.
C'est comme ça que vous distribuez les cantons.
Avec cette pensée du jour, c'est Matt Damon qui a écrit que il vaut mieux être soi-même que d'essayer d'être une version de ce que vous pensez que l'autre personne veut. Encore une fois, il vaut mieux être soi-même que d'essayer d'être une version de ce que vous pensez que l'autre personne veut. Et l'homme Kossi Atichogbe, nous allons saluer une grande personne morale qui existe au Togo depuis le 16 février 1963. Cette personne, c'est le Comité National Olympique Togo qui fête aujourd'hui son jubilé de diamant.
Oui, effectivement, le Comité National Olympique du Togo fête son jubilé de diamant, 16 février 1963, 16 février 2003.
Personne n'était encore né ici. Hein.
Le CNO Togo fut créé en 1963, donc aujourd'hui ça fait 60 ans jour pour jour que le CNO est créé. Donc aujourd'hui il y a une petite activité pour symboliser ces 60 ans en attendant de pouvoir véritablement rentrer dans le vif du sujet avec le déroulé des activités qui sont inscrites hein, durant toute l'année, parce que durant toute l'année 2023, il y aura une brochette d'activités olympiques et sportives, surtout que c'est l'année qui précède les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc le CNO Togo place justement ce jubilé de diamant sous le sceau de la protection de l'environnement. Surtout que les JO de Paris 2024 se positionnent comme des jeux, les premiers jeux à fort impact positif pour le climat.
Merci. Bon jubilé de diamant au Comité National Olympique Togo, son président Deladem Akpaki et tous les membres de son comité. Mais saluer également la mémoire de ces vénérables personnes, hein, aussi bien ceux qui ont créé le CNO Togo il y a 60 ans, que ceux qui ont présidé à cette destinée jusqu'à Deladem Akpaki.
Oui, effectivement, il faut saluer la mémoire de tous les présidents qui ont présidé le CNO Togo, mais qui malheureusement sont passés de vie à trépas. Et également saluer ces présidents qui ont fait leur preuve à la tête du CNO Togo, mais qui sont toujours en vie. Je veux parler de M. Azad Kelani Bayor. Je veux parler également de M. Général Zoumarou Niofam. Je veux parler du Général Nabédé. Des personnes, de grandes personnes, des personnalités justement qui ont fait leur preuve à la tête du Comité National Olympique du Togo, qui ont quand même réussi à hisser le flambeau de l'olympisme à un niveau très élevé. Et c'est dans la continuité de ces actions que le comité exécutif actuel est en train de travailler.
Bon, je veux le diamant rappeler que c'est dans un peu plus d'un an que les Jeux Olympiques de Paris vont se dérouler en 2024. Oui. Nous osons croire que le CNO et ses fédérations sportives membres hein, seront outillés, leurs athlètes, pour que le Togo soit bien représenté à ces Jeux Olympiques Paris 2024.
Oui, c'est très important, surtout que Paris, Lomé, Paris, c'est 6 heures de vol. C'est la première fois qu'on a, l'une des rares fois qu'on a, dans l'histoire de l'Olympisme, une capitale aussi proche hein, de Lomé par rapport aux Jeux Olympiques, le plus grand événement sportif planétaire. Donc au niveau du Togo, on est en train de mettre les bouchées doubles. Il n'y a plus de question de pouvoir donner des places d'universalité au Togo. On veut rompre avec ce signe pour que nous puissions véritablement faire des qualifications directes. Et donc aujourd'hui, on a 5 athlètes dans les centres, répartis dans les centres, 5 boursiers olympiques qui sont répartis dans les centres, dans plusieurs disciplines, dont l'athlétisme, la boxe, la gymnastique rythmique également, qui bénéficie d'une bourse. Le triathlon, c'est quand même rare hein, d'avoir un Togolais qui fait du triathlon, parce que le triathlon, c'est 3 disciplines combinées, le vélo, la natation et la course. Et donc, vous voyez un peu, on a un Togolais qui évolue du côté de la France, qui est quand même champion de Dakar lors d'une compétition, Eloi Adjavon, qui aussi se prépare pour le Togo pour participer à ces Jeux. Et donc, on est en train de mettre les bouchées doubles au niveau du CNO pour une qualification honorable et historique du Togo aux Jeux de Paris 2024.
Merci de l'Olympisme. Venons à la presse togolaise avec le nouveau code de la presse de la communication qui est entré en vigueur depuis ce début d'année, janvier 2023, lequel code fait obligation aux sociétés de presse de se conformer à des normes. Et nous, à Canal FM, on l'a fait. Et puis, depuis hier, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, la HAC, hein, qui publie les médias qui sont conformes au code de la presse. Il y a 65 journaux écrits, 76 presses en ligne. C'est la liste qui a été rendue publique hier et que partage avec nous Flambeau des démocrates. Magloire.
Oui, ça, vous savez que depuis janvier 2020, le nouveau code de la presse et de la communication est entré en vigueur, mais il y a un moratoire de 3 ans qui a été donné. Et on se rend compte que après, comme la HAC l'avait dit, injonction a été faite donc aux acteurs de se conformer aux nouvelles exigences, notamment de se conformer en entreprise de presse. Et donc c'est dans ce sillage-là que la HAC venait de publier hier mercredi la liste actualisée, n'est-ce pas, des médias qu'elle reconnaît officiellement au Togo. Mm-hmm. Et parmi ces médias-là, on peut citer, enfin, on a 65 presses écrites et 76 presses en ligne. Maintenant, la HAC dit que tous ces médias-là qui opèrent, mais dont les noms ne se retrouvent pas sur la liste, là, doivent considérer leur récépissé comme caduque. Mm-hmm. Et donc de cesser de travailler au Togo. Mais quant à ce qui concerne les médias audiovisuels, la HAC informe que leur liste sera publiée très prochainement. Et donc c'est la situation telle qu'on l'a.
Merci. Je puis vous assurer, hein, je ne suis pas le DG, mais je puis vous assurer que Canal FM s'est conformé à la nouvelle réglementation. J'ai été heureux également de découvrir sur la liste de la HAC la Nouvelle Tribune, hein, Flambeau des Démocrates, Canal D, tous les journaux dont je reçois les directeurs et rédacteurs en chef. J'ai vu les noms sur la liste de la HAC, mais il y a certains journaux que je connais, que vous connaissez également, mais dont les noms ne figurent pas sur la liste de la HAC. Alors, Oulo, oui. La HAC dit dans son communiqué que ces médias, hein, aussi bien écrits que numériques, hein, que la HAC ne reconnaît pas encore, ces médias devraient cesser par eux-mêmes de paraître et aller se conformer à la nouvelle réglementation.
Oui, ça c'est dans l'ordre normal des choses parce que nous avons eu au moins un moratoire de 3 ans pour nous conformer. Je crois que nombreux d'entre nous étaient informés et devaient s'arranger vraiment pour remplir les conditions. Bon, malheureusement, certains n'ont pas pu le faire. Je ne sais pas pour quelles raisons. Mais ceux qui ont pu le faire, quand même, nous sommes toujours sur le marché. Il faut dire quand même que la porte n'a pas été fermée. C'est ce que moi j'apprécie au niveau de la HAC qui a recommandé que dès que les autres rempliront les conditions, ils pourront revenir compléter et puis continuer par exercer. C'est de bonne guerre parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut que le secteur de la presse soit vraiment réformé. On veut une presse plus professionnelle, une presse vraiment qui donne envie de devenir journaliste et qu'on revalorise la profession de journaliste. Nous sommes d'accord avec, mais comme nous l'avons tout le temps répété, il faut que les conditions aillent avec parce qu'on ne peut pas toujours nous demander de nous conformer et que ce qui doit aller avec, vraiment, qu'on fasse toujours des gymnastiques pour avoir ce qu'on doit avoir, ma foi. La presse a actuellement fait sa part. Nous attendons la suite pour voir. On nous a parlé du fonds d'aide. Les jours, les mois à venir, nous verrons maintenant quelles démarches les autorités feront vis-à-vis de la presse, parce qu'aujourd'hui, ils ont demandé à ce que nous nous conformions. Une bonne partie l'a faite. Maintenant, nous attendons le retour, l'ascenseur, ce qu'on nous servira pour juger vraiment de la bonne foi du gouvernement et vraiment dire que nous sommes quand même sur une nouvelle voie qui a été tracée.
Merci. Nous abordons à présent la page Connexion Internet.
Oui, mais avant. Je vais dire un mot. Je crois quand même que, ce travail qui a été fait, un travail qui répond aux nouvelles dispositions du Code de la presse. Aujourd'hui, on a 65 titres de journée officiellement déclarés. Et je crois maintenant qu'on doit mieux prendre soin de nous sur le plan professionnel et sur tous les plans techniques et tout le reste. Parce qu'aujourd'hui, avec 65 journaux officiellement déclarés, l'État peut dire, bon, on a une lisibilité. Parce qu'avant, on nous disait qu'on est 450 titres de journaux déclarés officiellement. Déclarés officiellement, je veux dire. Maintenant, on est passé de 450 à 65 pour tout le pays. Si je m'amuse à diviser 65 par 5, on peut avoir un ratio de, je ne sais pas, au moins, je pense, une douzaine de journaux par région. Donc je crois quand même que ça va, parce que si on prend une région comme les plateaux, 12 journaux, ça ne nuit à personne, parce que les plateaux sont vastes, Palimé, Atapamé, etc., et c'est profond. Donc je crois quand même qu'aujourd'hui, on doit être davantage professionnel nous-mêmes, mais aussi demander à l'État de nous accompagner plus à travers le fonds ou l'opérationnalisation du fonds d'aide à la presse.
Merci à l'auditeur qui nous rappelle que les trois lieux que la prévention routière togolaise a choisi pour le réglage des phares, c'est au Palais des Congrès, GTA et puis dans l'enceinte même de la DTRF.
Est-ce que c'est gratuit ou c'est payant?
Non, je crois que c'est 1000 francs CFA hein, pour se faire régler son phare. Et si l'ampoule est éventuellement défectueuse, hein, vous pouvez trouver sur les lieux la nouvelle ampoule conforme à la réglementation hein, à vos frais. Et ainsi, en circulant la nuit et l'homme, tu pourras bien voir et être bien vu.
Merci.
Maintenant, nous pouvons passer aux connexions Internet et applications. Nous avons tous suivi le communiqué ayant sanctionné le Conseil des ministres hier. Ce qui nous retient notre attention, c'est le point 2, hein, point grand 2, petit 6, quand le Conseil des ministres a examiné et adopté un projet de décret fixant les conditions et les procédures d'obtention, d'autorisation et de certificats relatives à la pose de câbles sous-marins de fibre optique et ou la construction de chambres d'atterrage au Togo dans le domaine public maritime. Le gouvernement trouve que, avec l'essor des réseaux de communication qui constituent un des vecteurs de développement économique de nos États, il est opportun de disposer de plusieurs câbles sous-marins afin de favoriser la mise en œuvre de la majorité des projets de la feuille de route gouvernementale. Pour dire que le gouvernement a toujours l'ambition de doter notre pays de suffisamment de câbles marins afin que la connexion soit bien fluide. Et nous évoluons avec cette information qui défrait la chronique depuis ces derniers jours, que nous rappelle Ouara le vainqueur, à savoir Togocom, qui a annoncé qu'elle va procéder, ou bien qu'elle procède déjà à l'identification de ses abonnés fibres. Ceux qui ont l'abonnement fibre auprès de Togocom sont invités à se faire identifier auprès d'une agence. Et puis l'autre information que nous rappelle aujourd'hui Canal D et le journal Le Changement, c'est toujours Togocom qui annonce qu'elle va désactiver ceux qui ont l'abonnement Wi-Fi, l'abonnement fibre Wi-Fi, mais qu'ils commercialisent. L'article même dit des lignes fibre Togocom utilisées à des fins commerciales illicites de Wi-Fi zone bientôt désactivées. C'est un communiqué de Togocom qui annonce que l'utilisation des fibres, des lignes fibres de leur marque à des fins commerciales en contradiction non seulement avec l'offre initialement souscrite, mais aussi avec les conditions particulières des offres d'accès à Internet haut débit et très haut débit en leur article 3 qui stipule que les offres résidentielles d'accès Internet haut débit et très haut débit sont exclusivement réservés à un usage privé dans le cercle familial. Pour dire que ceux qui avaient des lignes fibres, mais qu'ils avaient transformées en Wi-Fi zone, seront désactivés. Et puis dans la foulée, c'est l'ARCEP qui est sorti avec des clarifications qui s'imposent. Magloire?
Oui, comme vous venez de le relater tantôt, Togocom a fait sa sortie en précisant évidemment que ceux qui ont bénéficié des offres résidentielles, n'est-ce pas, de Wi-Fi, mais qui le commercialisent doivent cesser cette activité. Et derrière, on a vu donc que l'ARCEP a fait également une sortie. Mais de façon ramassée, on dira donc que l'ARCEP est venu clarifier d'abord la situation et atteste justement que l'acquisition de ces offres-là d'Internet à haut débit au Togo est régie justement par des lois et que chaque acteur devrait se conformer à cette réalité-là. Mm-hmm. Maintenant, quant à ce qui concerne Togocom, l'ARCEP dit notamment qu'il serait plus utile, on va le dire ainsi, de privilégier beaucoup plus des alternatives, on va dire,
des offres plus abordables
aux clients. Et donc, c'est la substance même de la sortie de l'ARCEP. Mais quant à moi, journaliste, je dis aussi bien pour Togocom, je comprends du point de vue marketing, parce que c'est une société qui vend un produit, oui. Et que quand vous venez vers ce service et vous leur demandez de vous vendre un produit à un prix donné, ils le vendent, il faut respecter les clauses. Maintenant, on comprend que la situation sociale du pays, la situation économique a fait que les gens qui ont sollicité des offres résidentielles ont transformé cela en offres commerciales. Mm-hmm. Et qu'aujourd'hui, Togocom aussi veut limiter à ça. Du point de vue marketing, je comprends. Mais on peut, comme l'a dit Arcep, voir comment on peut trouver le juste milieu. Mm-hmm. Parce que Togocom dit qu'on doit déjà actionner la piste de désactivation de ces offres, mm-hmm. alors que l'Arcep dit oui, d'accord, ceux qui le font contre la loi, mais il vaut mieux trouver des offres qui puissent profiter à tout le monde.
On pourrait dire que l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, clarifie, mais situe chacun devant ses responsabilités. Mais l'ARCEP précise dans un premier temps que le Wi-Fi Zone aujourd'hui est un service qui participe à l'inclusion numérique parce qu'il permet aux consommateurs à faible revenu d'accéder au haut débit fixe à des tarifs beaucoup plus abordables que les tarifs prohibitifs en entrée de gamme de l'Internet. Donc, l'ARCEP reconnaît que le Wi-Fi Zone profite à beaucoup de personnes aujourd'hui, même au moins nantis. Mais en même temps, l'ARCEP continue et invite les fournisseurs d'accès Internet à proposer des offres alternatives favorables à l'activité du Wi-Fi Zone. Et en même temps, l'ARCEP demande aux fournisseurs de services à valeur ajoutée à se conformer aux dispositions qui encadrent l'exercice de leurs activités. Alors, Oulo et Elom, est-ce que chacun se retrouve dans ce communiqué de l'ARCEP? En tout cas, est-ce que vous, d'abord, vous vous retrouvez bien? Oulo?
Oui, moi, je trouve que l'ARCEP est venu vraiment recadrer les choses parce que le communiqué de Togocom, vraiment, est venu comme une hache qui devait vraiment faire peur à tout le monde parce que plusieurs ont reçu des messages comme quoi ils sont dans l'activité illicite de Wi-Fi Zone et ça devait être désactivé. Si vous regardez bien sûr les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de Togocom, nombreux internautes ont réagi vraiment négativement, n'ont pas compris pourquoi, après avoir fait un abonnement aujourd'hui, ils ne sont pas dans le droit de commercialiser ça comme ils le veulent. D'une part, je comprends Togocom qui a souscrit, c'est-à-dire qui a fait une offre pour usage domestique. Mais il se fait qu'aujourd'hui, beaucoup ne l'utilisent plus de façon domestique, mais également le commercialisent. Ce que Togocom trouve contraire aux clauses qu'il y a entre le client et le fournisseur. Mais il faut dire également que beaucoup, à l'origine, ne savaient pas que quand ils prennent une ligne, ils ne sont pas obligatoirement, ils ne peuvent pas le commercialiser. Beaucoup n'ont pas compris ça comme ça. Parce qu'on parlait de offre domestique et de offre professionnelle. Pour professionnels, les gens croient que bon, c'est pour les entreprises, mais eux, domestiques, bon, ils peuvent également se permettre de, voilà, faire du Wi-Fi Zone et tout ça. Mais l'ARCEP aujourd'hui est venu dire que le Wi-Fi Zone n'est pas illicite. Toutefois, il y a un cadre réglementaire dans lequel il faut le faire. Il est bien vrai que le cadre réglementaire n'a pas été vulgarisé, si bien qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une certaine norme qu'on veut imposer, qu'on veut mettre dans le secteur, mais la manière avec laquelle il faut le faire, c'est le juste milieu que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens prennent les fibres domestiques et les commercialisent. C'est parce que le coût est élevé. Ça, c'est toi à moi. Combien de Togolais peuvent payer une fibre optique à 30 000 francs le mois? Ce n'est qu'il y a 6 mois que la fibre est revenue à 15 000 francs. 30 000 francs, c'est un budget. Quand nous savions à combien...
C'est un salaire.
C'est un salaire plutôt, je dis un budget. Voilà, non, c'est un budget.
Le SMIC maintenant, c'est qu'en 2500.
Non. Ça, attends. Oh, c'est qu'en 2500, c'est théorique. C'est pas encore pratique. Dans un pays où, je dis, nous n'avons pas de classe moyenne. Nous avons une élite et nous avons le bas de gamme. La classe moyenne qui est censée consommer, nous sommes très faibles si on veut comptabiliser la classe moyenne. Donc, du coup, payer 30 000 francs pour une fibre optique domestique, c'est compliqué. C'est bien que les gens sont obligés de mettre ces petites antennes-là, au moins, pour qu'à côté, dans leur quartier, les gens puissent se connecter, parce que nombreux ne peuvent pas s'octroyer ce privilège-là. Parce qu'il faut dire que, pour ceux qui ont la fibre optique de 30 000, c'est un privilège. C'est un privilège. Et aujourd'hui, l'ARCEP, vraiment, est en train d'amener les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet à proposer des offres acceptables et abordables à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, parce que le Togolais, c'est vraiment compliqué pour le Togolais. Le petit pain là qu'aujourd'hui, beaucoup se sont lancés dans ces trucs-là juste pour joindre les deux bouts. Pas vraiment qu'ils font un chiffre d'affaires faramineux. C'est pas un chiffre d'affaires faramineux. C'est un peu compliqué pour tout le monde de comprendre qu'aujourd'hui, avec ces petites activités qu'ils font, parce que quand vous observez ce qu'ils font, ce n'est pas l'activité principale. Soit c'est des boutiques qui vendent quelque chose, et le Wi-Fi Zone vient juste en complément. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est pas bien qu'on désactive totalement tout le monde, mais qu'on trouve le juste milieu. Peut-être, si vous voulez vendre du Wi-Fi Zone, qu'on essaie de voir quelle est l'alternative, combien vous allez payer, pour que tout le monde puisse sortir gagnant. Parce que moi, je me dis qu'aujourd'hui, si Togocom veut appliquer la force, je crois qu'il y a un concurrent qui est en face, qui va rafler la majorité des consommateurs. Parce qu'il faut dire qu'au début, c'était cette guéguerre, et Togocom avait ouvert la vente pour que beaucoup de consommateurs puissent arriver. Maintenant qu'on est arrivé, c'est comme un piège à souris qui prend tout le monde.
Merci. Wow. Mais finalement, et l'homme, tout se tient. D'abord, le gouvernement, hein, qui sent le besoin d'augmenter la capacité du pays en matière de fibres, quitte à augmenter la production. Et la CEP également, qui reconnaît que le Wi-Fi Zone est une réalité aujourd'hui qui arrange beaucoup de personnes, et aussi et surtout les moins nantis, d'où donc cette solution que préconise la CEP, à savoir que Togocom ne désactive pas ce qui transforme le Wi-Fi résidentiel à des fins commerciales, mais qu'on trouve un juste milieu, que les uns se conforment et que Togocom également et les autres opérateurs proposent des offres beaucoup plus alternatives.
Non, moi je pense que Togocom a sorti un communiqué gauche, excusez-moi, parce que vous savez, aujourd'hui ce qui préoccupe les Togolais, ce n'est pas le Wi-Fi Zone, c'est la qualité de la connexion Internet. Mais vous, à Déticopé ici, vous avez, quand vous pingez la connexion, vous avez à Déticopé une connexion nulle. Les gens payent 15 000 francs, 30 000 francs par mois. On ne dit rien. Togocom ne sort pas un communiqué même pour présenter des excuses à la clientèle. À Déticopé ici, à Déticopé, Togolécopé, demandez s'ils ont la connexion Internet. On raccorde.
Alors, je parle en profonde, mais est-ce que ce n'est pas la surcharge des Wi-Fi zones qui altèrent, disons,
la connexion? Ils sont combien, les Wi-Fi zones?
Non, ils sont. Je parlais de questions.
Non, ils sont combien?
Non, merci, merci, je veux dire.
Non, ça n'a rien. Donc, non, vous allez à partir de Togolécopé, en allant à Déticopé, au fur et à mesure, même dans la capitale ici. Il y a des jours où Togocom ne fonctionne pas en termes de connexion Internet. Vrai, on parle vrai. De qualité de connexion Internet, ils disent Wi-Fi Zone. Mais le problème est là, on veut chercher des solutions à des problèmes. Maintenant, ils nous disent qu'il y a trop de Wi-Fi Zone. Il faut d'abord qu'ils servent de la bonne connexion. Le problème, c'est d'abord d'arriver à satisfaire les consommateurs. Il y a des radios ici, dans la capitale togolaise, qui sont raccordées Togocom. Quand vous êtes là, sur ces radios-là, dans une tranche donnée, vous avez des coupures de connexion Internet de 20, 30 minutes, durant toute l'émission ou durant votre présence. Ça, c'est une connexion Internet, ça? Non, franchement, donc, je pense que Togocom ferait mieux d'améliorer la qualité de sa connexion Internet plutôt que de se perdre dans des communiqués de Wi-Fi Zone. La Wi-Fi Zone, là, qui ne marche même pas. Ce que les gens achètent à 100 francs, ils ne savent pas ce qu'ils font avec 100 francs, 200, 10, 1 heure, 2 heures. Ils ne savent pas ce qu'ils foutent avec, à part WhatsApp. On ne peut même pas faire des recherches. On ne peut même pas se connecter à un site sur téléphone parce que la connexion est de faible qualité, de faible débit. Et les gens trouvent que, bon, des quoi, c'est ce qui les intéresse, c'est Wi-Fi Zone. Non, franchement, on est en train de nous. Franchement, moi, je n'ai pas de temps perdu des communiqués aussi bizarres parce que ce qui intéresse le Togolais, c'est la qualité de la connexion. Quand vous dépassez, vous passez par le. Vous allez au Bénin, vous allez au Ghana, vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez une connexion fluide. Mais quand vous descendez ici chez nous, il y a un opérateur qui est là, c'est Togocom. Quand vous vous raccordez à ce réseau, c'est une connexion bizarre. Toutes les fois, vous devez appeler pour vous plaindre. Toutes les fois, vous devez appeler pour vous plaindre. Franchement, je crois qu'on doit nous faire l'économie de se communiquer et se concentrer sur le travail qui consiste à assurer et fournir une bonne qualité de connexion.
Peut-être que la solution se trouve en amont quand le gouvernement va mettre en œuvre le décret qu'il a adopté hier avec l'augmentation de la capacité ou bien des capacités du pays. Peut-être que la solution se trouvera là parce que le gouvernement.
Mais le Togocom, c'est privé. Togocom, c'est d'abord privé. Il faut trouver des solutions aux problèmes des consommateurs. Nos problèmes, c'est qu'on n'a pas une bonne qualité de connexion Internet. Il faut régler ça. Mais il ne faut pas dire que Wi-Fi Zone. Wi-Fi Zone, ils sont combien dans le pays? On n'a qu'à nous faire un ratio. Il y a combien de Wi-Fi Zone dans la capitale togolaise?
Merci.
Les Wi-Fi Zones sont plutôt adaptées aux populations de l'intérieur. Mais les gens de l'intérieur, par exemple, au fur et à mesure qu'on va à l'intérieur du pays, vous ne voyez pas que la connexion Internet devient rare ou un luxe. Mais ils sont combien à pouvoir payer 15 000 francs par mois, 30 000 francs par mois pour avoir une connexion Internet? Donc la solution, c'est quoi? C'est le Wi-Fi Zone.
Merci. Cet article éditorial de Flambeau des démocrates que j'ai lu avec plaisir, l'article intitulé « La destination de la peur ». Magloire, votre journal, vous êtes parti d'un fait, ce que le gouvernement du Canada a affiché sur son portail et qui dit ceci: « Faites preuve d'une grande prudence au Togo en raison des troubles civils, des manifestations politiques et des crimes violents. » Alors, pour Flambeau des démocrates, ce que le gouvernement canadien affiche à son portail peut tendre à créer une psychose et faire une mauvaise publicité pour notre pays, le Togo.
Oui, je crois que c'est l'analyse que tout observateur avisé pourra faire, parce que c'est tout à fait normal qu'un État puisse alerter ou aviser ses concitoyens qui désireraient visiter un pays. C'est normal qu'on puisse les informer sur la situation sociopolitique du pays. Et c'est aussi vrai qu'au Togo actuellement, surtout au niveau de la région septentrionale du Togo, il y a ces attaques terroristes-là qui sèment de la psychose dans cette zone du pays. Mais lorsque vous tombez sur une information pareille, avec la description surtout qui est faite, il y a lieu de se poser une et mille questions. Mm-hmm. On se demande si c'est tellement alarmiste à ce point où on y va avec des descriptions de risques d'enlèvement et tout. C'est vrai que c'est des canaux diplomatiques, certainement qu'ils auraient les informations qui attestent véritablement ce qu'ils disent. Mais plus loin, on dit éviter tout voyage à 30 km de la frontière avec le Burkina Faso en raison des opérations militaires, de la menace terroriste et du risque d'enlèvement. Et le gouvernement canadien parle également des crimes mineurs comme les vols de sacs à l'arraché et des crimes violents tels que les agressions armées, les vols violents, les cambriolages résidentiels. Il y a toute une information qui est donnée, mais l'un de nous a l'idée de critiquer le gouvernement canadien, mais nous nous disons que ça peut être un message aussi au Togo, aux autorités togolaises, notamment le ministère de la sécurité, de la protection civile, de maximiser encore beaucoup plus la sécurité dans le pays, histoire de rassurer, n'est-ce pas, nos partenaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui viennent, c'est des investisseurs, c'est des visiteurs, c'est des touristes, ils sont tout. Mais quand ils viennent, ils n'ont pas l'assurance, n'est-ce pas, de trouver la quiétude, la paix sociale. Je crois que ça va freiner un peu la dynamique en cours, parce que quand on prend le Togo dans tous les sens depuis quelques temps, on amorce, on va dire, de grands projets de réalisation et tout, mais des situations pareilles n'encouragent vraiment pas les investisseurs à venir chez nous.
Autre pays, autre réalité, mais des informations similaires ont coûté leur place aux représentants du système des Nations Unies et même de la France au Burkina Faso il n'y a pas longtemps. Mais ça, c'est le Burkina Faso. Nous sommes ici au Togo. C'est vrai que nous avons une situation avec des incursions terroristes par moment au nord du Togo. Mais est-ce que c'est si alarmant? Surtout que le gouvernement canadien parle même de troubles politiques, troubles civils, manifestations politiques et crimes violents. Je laisse le soin à Robert Doucet, au gouvernement togolais, d'apprécier. Mais, et l'homme, est-ce que...
Juste pour précision, l'information a été actualisée le 10 février dernier, c'est-à-dire vendredi dernier.
Alors, est-ce que le Togo, est-ce que nous avons une telle situation dont nous serions ignorants dans ce studio du club La Presse, Oulo?
Non, ça, c'est toi-même, tu es togolais comme moi. Si on tue les gens dehors, tu sais, moi aussi, je peux savoir. Non, je crois que bon, peut-être c'est à titre préventif, mais c'est un peu trop de la surenchère. Je ne sais pas si le Canada a une ambassade ici ou bien une mission diplomatique pour essayer de corroborer vraiment ces informations parce que nous circulons librement, nous n'avons pas de problème. C'est juste qu'au nord, c'est vrai que nous avons une situation sécuritaire qui est un peu compliquée depuis quelques mois avec des bandits qui rentrent et sortent, font la loi. Mais il faut dire que le mal est un peu circoncis pour le moment dans la préfecture de Pendjal et ce n'est pas dans tout le Togo. Je ne sais pas peut-être comment ils ont eu les données, mais notre ministère des Affaires étrangères serait vraiment plus habilité pour prendre la tâche avec eux, peut-être, quitte à rectifier les informations qu'il faut, parce qu'il ne faut pas qu'on vende le Togo comme une destination de la peur. Non, jusqu'ici, quand même, le Togo est un beau pays qui attend tous les visiteurs.
Merci, mais la réalité, hein, il y a ces incursions terroristes par-ci, par-là, nous en parlons au jour le jour, même si le gouvernement a choisi de ne plus communiquer là-dessus, nous faisons notre travail comme journalistes et nous déplorons les faits que nos frontières sont poreuses, trop poreuses par là-bas avec nos voisins qui ne connaissent pas toujours la grande sécurité. Mais il y a cette triste réalité. Enfin, on constate de plus en plus que les jeunes de cette région se font un peu complices et participent à certains réseaux qui fournissent les terroristes, notamment en carburant et en vivres et autres. Là, c'est une réalité. Et l'homme, ça, on ne pourra pas le cacher.
Oui, oui, mais je pense qu'il faut commencer à dénoncer cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ces zones, c'est des zones vraiment fertiles où des agents ou des terroristes viennent recruter des gens dans nos rangs, les jeunes, pour leur dire voilà, ceci, cela, on les soumet à toutes sortes de traitements et on essaie de les cajoler, de les formater pour les programmer à tirer. Et franchement, je crois qu'il faut commencer à sensibiliser nos concitoyens par rapport à cet état de choses, mais ne pas les sensibiliser parce qu'on dit souvent que ventre affamé n'a point d'oreille. Si la personne a faim, vous venez le sensibiliser, il n'écoutera rien de ce que vous lui dites. Il faut lui apporter à manger, il faut lui trouver une situation. Parce que si la personne a une situation, il ne va pas s'adonner aussi à quelque chose. Donc, je crois qu'il faut renforcer le développement dans cette zone, accentuer ce développement-là par des initiatives. Je ne vais pas faire la place, le travail, voilà, du gouvernement à sa place. Je crois qu'il faut multiplier les initiatives de développement dans ces zones pour permettre à ces jeunes d'être occupés. Parce que c'est le fait d'être là, de ne rien faire, d'être de se réveiller chaque matin à ne rien faire. Il n'y a pas d'infrastructure d'épanouissement, de bien-être, etc. Donc je crois que c'est fondamental parce que l'être humain a besoin aussi d'être épanoui dans son travail, dans ses activités et dans tout. Mais si la personne se lève, il n'y a pas d'électricité, il n'y a déjà pas de radio. Vous vous imaginez dans une zone où il n'y a pas de courant, il n'y a pas de radio, vous n'avez pas de nouvelles. Pour aller à l'école, c'est compliqué. Et vous n'avez que votre famille, vous discutez tous les jours. Il n'y a pas d'activité, c'est quand même compliqué. Donc il faut véritablement qu'on puisse accentuer le développement dans cette zone pour permettre à nos jeunes de rester chez nous et de ne pas prêter le feu.
Oui, Oulo, tu connais bien la région des savanes, la pauvreté, pour ne pas dire que la misère sévit. Les jeunes qui développent des réseaux de trafic dans ces commerces illicites où, bien malgré eux, ils alimentent les terroristes en carburant, en vivres et autres. Et pour ce que disait tantôt Elom, le gouvernement a déjà mis en œuvre depuis plus d'un an le programme d'urgence de résilience dans la région des savanes. En un an, où déjà une cinquantaine de milliards ont été investis en infrastructures routières pour désenclaver les localités, construire quelques bâtiments scolaires ou bien sanitaires, apporter l'électricité, des forages par-ci, par-là. Mais c'est un programme qu'il faut renforcer. La preuve, il n'y a pas longtemps, la première ministre a même rencontré les partenaires pour mobiliser davantage de ressources pour ce programme d'urgence.
Évidemment, vous savez, le gouvernement a commencé quelque chose, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est pourquoi on parle de programme d'urgence. Il faut dire que vraiment la préfecture de Pendjal a été longtemps abandonnée, oubliée, délaissée. Il faut rappeler que c'est en 2022 que la première voie goudronnée est passée dans cette préfecture. Franchement, c'est une situation incompréhensible pour beaucoup. Beaucoup sont vus abandonnés. Et pendant longtemps, cette zone-là a été un terreau fertile. C'est aujourd'hui le ventre mou par lequel ces bandits, ces hommes armés sans foi ni loi rentrent et sèment chaos et désolation. Aujourd'hui, la préfecture de Pendjal est presque vidée parce que beaucoup n'ont pas pu cultiver pour avoir des moyens de subsistance pour cette nouvelle année qui démarre. Beaucoup ont fui à cause des attaques. Aujourd'hui, c'est bien vrai que le gouvernement ne communique plus sur les attaques, mais il faut dire qu'il y a constamment des attaques où les gens rentrent et on accuse, c'est-à-dire quand ils rentrent et ils découvrent qu'ils ont les informations comme quoi c'est tel qui aide les forces de sécurité, mais on fait une représailles vis-à-vis d'eux. Beaucoup de gens ont été égorgés. Beaucoup de gens ont eu des problèmes dans cette histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse est partagée entre rester et partir. Quand vous restez, vous ne savez pas quel jour est-ce que ces gens vont venir tomber sur vous et vous taxer de complices et que c'est vous qui aidez les forces de sécurité. En même temps, les gens aussi ont peur qu'on dise que non, c'est eux qui aident les bandits à rentrer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup préfèrent s'exiler et la préfecture est en train de se vider. Il faut rappeler qu'au début de la crise sécuritaire, beaucoup qui avaient les armes traditionnelles, on a retiré ces armes traditionnelles à leur niveau. Ce qui fait que les gens n'ont pas aujourd'hui de moyens pour se défendre une fois que c'est une attaque, puis c'est une guerre asymétrique. Vous ne savez pas quand est-ce que les hommes, les bandits là vont rentrer vous attaquer. Et aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir est-ce qu'on ne va pas tendre vers la situation au Mali et au Burkina où nous avons des volontaires qui viennent appuyer les forces de défense et de sécurité dans vraiment la sécurité de cette zone-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien vrai que les militaires ont des postes fixes où ils sont là. Mais dans une guerre asymétrique où parfois ces gens-là peuvent rentrer, est-ce que les volontaires qu'on va former, qu'on va outiller, peut-être au maniement de l'arme, ne vont pas permettre un temps soit peu de sécuriser certaines zones en attendant que vraiment les forces de sécurité arrivent? C'est autant de questions que nous sommes en train de vraiment de mijoter et que le gouvernement essaie de voir parce que, franchement, nous sommes à Lomé. Beaucoup pensent que rien ne se passe au nord, mais vraiment la situation est terrible au nord. Les nouvelles qui nous parviennent des gens qui sont là-bas, c'est pas évident. Vraiment, merci, solidarité
la réalité, pour la population de Kouadja. L'État a été très absent dans ces régions nord du Togo, mais c'est à ce niveau-là qu'on a le double contraste. Vous savez, la région. Enfin, la partie du Togo où il y a le maximum d'ONG, c'est la région des savanes. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est la région la plus pauvre et qui expose les populations à la précarité. L'autre contraste, je n'ai pas fait le compte, mais la plus grande partie des ministres du plan ou de la planification sont des originaires de la région des savanes. C'est vrai que le tort doit être porté par le Togo. Mmh. Mais comment est-ce qu'on a pu avoir de nombreux ministres de la planification originaires de la région des savanes et que la plupart des ONG opèrent dans la région des savanes et que c'est aujourd'hui la partie du Togo la plus pauvre qui expose la population à la précarité.
Juste un complément. Ça, tu sais, aujourd'hui, le problème d'infrastructure, ce n'est pas les ONG qui vont venir construire le bouton. Je suis désolé. Électrifier ces zones.
Mais les ministres de la planification.
Là, si tu mets le doigt sur eux, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ce point. Parce que on ne peut pas avoir autant de ministres de là et cette zone-là est abandonnée. Parce que pendant longtemps, on a fait de la politique politicienne. On n'a pas fait un développement parce qu'on se dit non, ce sont des zones acquises pour nous. On s'est concentré plus sur les zones qui n'étaient pas acquises à la politique de ceux qui dirigeaient le pays. Aujourd'hui, on est confronté devant un gouffre. On se demande comment on va faire pour rattraper ce gap-là de plus de 40 ans. Ma foi, c'est compliqué. Parce que je dis qu'aujourd'hui, cette situation va nous amener à vraiment revoir notre manière de faire la politique. À vraiment faire une politique de développement et sans vraiment, je veux dire, faire des calculs politiciens. Aujourd'hui, ce sont ces calculs politiciens-là qui nous rattrapent. Qui nous envoie une gifle au visage et on est obligé de créer des programmes d'urgence et Dieu seul sait comment ces programmes-là vraiment vont véritablement impacter parce que la corruption est toujours là, on ne sait pas véritablement.
Un auditeur nous rappelle un contraste, c'est des régions qui ont toujours voté à 90-95% pour le parti au pouvoir depuis toujours.
Je crois que l'on a quelque chose à dire. Bon, vous savez, non, j'avais posé le problème sur notre radio en début de semaine. Quand on parle de cadre, les cadres du milieu, ça dit que c'est le moment aujourd'hui, parce que depuis cette affaire, depuis le déclenchement de cette affaire, on ne voit que quelques ministres originaires de la zone véritablement solidaires. On voit des ministres qui vont même dans les savanes chaque semaine. On en voit, en fonction. Mais d'autres sont là, tranquillement.
Non, ils sont occupés ailleurs.
Oh non, mais attends, si Haoto aujourd'hui est attaqué, tu ne vas pas rester ici à nous regarder. Chaque samedi,
je
tu seras là.
Je ne vais pas attendre que Haoto soit attaqué. Je suis tout le temps.
Voilà, donc ta présence est importante. C'est pour la présence de quelqu'un. Regardez, quand nous, on est malade, même par exemple, la présence d'un proche, regardez comment ça nous réconforte. À plus forte raison, on est en guerre. Et nos frères, nos grands frères sont à Lomé. Et nous envoient des messages. Non, il faut être proche de la population. Il faut venir de temps à autre, apporter des messages de soutien, de consolation, et etc. Mais il faut être proche. Il ne faut pas donner l'impression que nous, on est à Lomé, vous êtes là-bas. Et bon, ça dit, il y a une fissure. Non, ce que je dis, c'est très important. Pour ceux qui sont, nous sommes tous Togolais. C'est vrai que c'est un problème national. Mais d'abord, ceux qui sont de la zone et qui ont la chance d'être aux affaires, il faut qu'ils montrent une petite solidarité, une compassion à leurs frères du village ou à leurs soeurs, à leur maman, à leur papa. C'est très important ce que je dis.
Merci. Nous évoluons avec le partenariat qui nous livre quelques nouveaux développements ces derniers jours. Lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Près de 74 milliards de francs CFA de subventions du Fonds mondial attendu par le Togo. Donc 74 milliards pour contre ces trois maladies. C'est le nouveau cycle qui couvre 2023 à 2025. Autre partenariat qui a produit ses fruits ces derniers jours, c'est ce que nous rappellent les journaux, dont la Nouvelle Tribune, avec le Togo qui vient de renouveler son partenariat avec le système des Nations Unies. Là, c'est une enveloppe de 247 millions de dollars, soit près de 150 milliards de francs CFA. Sur la période également, je crois,
2023-2026,
avec les trois points sur lesquels ces fonds devront être utilisés. Et en plus de ça, le Togo même qui vient d'aller sur le marché de l'UEMOA pour mobiliser 35 milliards de francs CFA. Tous ces fonds mobilisés reposent le problème de la bonne gestion. Hein, aussi bien les 35 milliards qu'on a cherché sur le marché de l'UEMOA, les 114 milliards du Fonds mondial et les près de 150 milliards des Nations Unies. Magloire, au minimum, les Togolais voulaient être rassurés que tous ces montants-là vont être utilisés sur des projets convenus dans les conventions signées.
Ben, c'est exactement ça. Vous savez, généralement, ces montants dont on bénéficie, ce ne sont pas des dons en tant que tels. C'est des prêts généralement qu'on aura remboursés, même à des taux d'intérêt qu'on ne nous dit pas très souvent. Et donc, c'est tout à fait normal que le Togolais soit curieux, n'est-ce pas, de savoir d'abord comment est-ce que ces fonds-là sont utilisés et surtout de veiller à ce que ces fonds-là soient bien gérés, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais en réalité, on va se le dire, hein, on est un peu curieux de savoir que malgré tout l'effort que le gouvernement fait pour mobiliser des milliards de gauche à droite, la situation sociale est telle qu'on ne sent même pas qu'il y a des efforts qui sont faits en amont. Ce n'est pas aujourd'hui. Prenons depuis 2008 ou 2009, lorsqu'il y a déjà eu le ministère du Développement à la base, avec tous les projets initiés à ce niveau. Le PNUD, il est là à financer des projets sur projets. On a ciblé des jeunes, on a ciblé
des femmes.
Et des agriculteurs. Mais aujourd'hui, on en soit encore là à parler de... comment ça s'appelle, ce qui se fait actuellement, fonds quoi,
et
Forum du paysan. Oui. Alors qu'on a eu d'autres initiatives pareilles qui ont été financées également par des partenaires. Mais comment on peut avoir toutes ces initiatives et des années après, on en soit encore là à parler comme si rien n'a été fait? C'est pour nous dire qu'en réalité, à un niveau donné, on essaie de faire le travail qu'il faut, mais je crois qu'il y a un sérieux problème de gestion de tout ça parce qu'on n'arrive pas à capitaliser les efforts qui se font de façon institutionnelle. Est-ce que c'est les hommes qui posent problème? Est-ce que c'est les fonds qui ne sont pas bien gérés? Je crois qu'il y a lieu au niveau du chef de l'État, parce que 18 ans, ce n'est quand même pas 18 jours. Je crois qu'à son niveau, il doit essayer de faire un petit break pour faire une analyse diagnostique de tout le parcours qu'il a fait jusqu'à ce jour, de tous les hommes qui l'accompagnent dans la réalisation de ces projets-là, pour qu'on en arrive aujourd'hui, 18 ans après, à ce que le Togolais, n'est-ce pas, continue toujours pas à se morfondre. Aujourd'hui, on parlait tantôt du communiqué de Togocom, parce que Togocom estime que les gens ont eu des offres résidentielles, mais qu'ils commercialisent. Mais Jean a bien fait de le dire que ben, les gens ne le font pas par loisir, parce que la situation sociale, économique est tellement exsangue que ben, tout jeune Togolais veut essayer de voir s'il peut s'en sortir par le biais des Wi-Fi zones. C'est pour dire que la situation, elle est alarmante et les autorités se doivent, n'est-ce pas, de
merci. De pour ce qui est du forum du paysan, forum des producteurs agricoles du Togo, on vient de voir, de vivre trois étapes. Et au Conseil des ministres, hier, nous avons appris que la prochaine étape, ce sera du 23 au 25 février dans la région disons, centrale. Mais sur le forum, sur ces forums justement, le journal La Lettre Agricole est paru aujourd'hui et se demande si les faux pas sont également un nouveau faux pas. Et le journal rappelle que autrefois, on connaissait ces rencontres sous le nom Forum National des Paysans Togolais. Mais aujourd'hui, on parle de faux pas qui se jouent de région en région. Et le journal se demande si les concertations et les efforts s'arrêteront uniquement entre les quatre murs des différentes salles de réunion. Qu'est-ce qui sera fait concrètement en termes de retombées de ces faux, de ces forats? Mais je voudrais qu'on, avec tous ces programmes et toutes ces ressources que nous mobilisons, quand vous rencontrez le Togolais, c'est que le Togolais n'est pas rassuré sur la façon dont les ressources sont utilisées. Je fais l'économie de ce que les parents, les amis nous confient. Mais surtout quand on revient au dernier rapport d'audit de la Cour des comptes sur le fonds de résilience solidarité Covid 2020, vous savez ce qui s'écrit dans les journaux, ce qui se dit sur les réseaux et ce que les gens pensent. Je vous donne juste une idée de revue de presse avec le journal du Togo qui écrit à la page 3 « Audit de la Cour des comptes et gestion des fonds Covid-19, le gouvernement prend acte des remarques de la Cour des comptes ». Le libéral, lui, écrit à la page 3 « Rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid, le gouvernement boucle l'affaire ». La suite, ce serait à travers les réformes. Mais Flambeau, parle de fâcheuse banalisation de ce rapport de la Cour des comptes, d'autant plus que, comme le rappelle toujours Flambeau et d'autres journaux, dans cette affaire de gestion des fonds de Covid au Togo ou ailleurs, c'est l'OMS qui monte au créneau et pour demander que transparence devrait être de rigueur. Autre journal, c'est le bâtisseur qui écrit, qui revient sur le rapport et parle d'indignation totale avec les réactions, notamment la société civile, qui annonce même une plainte contre X pour fraude, abus de confiance et fraude fiscale. Et pour terminer, le changement qui écrit lui aussi, gestion calamiteuse du fonds Covid-19, des OSC réclament la démission de tout le gouvernement et pour le changement, est-ce que Fon Yassingbe sera du même avis que la société civile? Le même changement qui rappelle lui aussi que l'OMS réaffirme sa position d'intolérance aux malversations financières au Sénégal et au Togo. Dans le contexte où le nouveau président de la APLUSIA vient de prendre fonction avec ses sorties du président de la Cour suprême que Canal D nous rappelle encore. Oulo.
Oui. Le président de la APLUSIA a pris fonction jeudi passé et comme beaucoup nous avons eu écho des encouragements, pour ne pas dire des précieux conseils que le président de la Cour suprême lui a donné en lui demandant de s'attaquer à la minorité qui est devenue majoritaire. Et moi je me suis dit c'est de vœux pieux. Mais on ne pouvait pas reprocher à l'ancien président de la APLUSIA qui n'avait pas fait le job. Vous savez, tant qu'une institution est mise en place et que on la dépouille, on la dépossède de l'arsenal nécessaire pour faire véritablement son travail, elle ne sera là que comme comment on appelle, un pantin, une marionnette et tout ça. Aujourd'hui, peu importe les conseils qu'on donne aux messieurs, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va aussi animer les formations, les séminaires, et puis c'est tout. Parce que on a non seulement la capacité de faire la prévention, mais ils n'ont pas les outils nécessaires pour traquer les prévaricateurs de la République. L'ancienne mandature a traité jusqu'à, je crois, 8-9 dossiers qui sont sur la table du procureur, mais rien n'a été fait. Le nouveau qui arrive, il fera le même job. Mais tant qu'il n'y a pas de mécanisme, vraiment, en tant que ministre, moi, avait dit qu'on va voir comment on va réaménager la loi et tout, mais jusqu'aujourd'hui, on est là où on est. Moi, je dis, dans un pays normal, avec ce rapport-là qui est sorti, ma foi, je vous dis qu'il y a des têtes qui doivent tomber. Ce n'est pas que, bien sûr, la conclusion du rapport dit non, tout a été géré dans la transparence, à respecter les règles, machin, machin. Mais quand on vous dit qu'on a confectionné un logo à 15 millions, quand on vous dit qu'on a commandé 5, ils ont appelé ça comment, les trucs
les
de
thermo.
Oui, non, des trucs thermoflash. Et on dit que 4 ne fonctionnent pas. Et le rapport précise que la première que l'aéroport, au niveau de l'aéroport, il y avait, je crois, au niveau du port, est de meilleure qualité, fonction 24 heures.
Et à moitié prix.
Et à moitié prix. Mais ma foi, on n'a pas besoin de réfléchir de midi à 14 heures. Non, je vous en prie, qu'on n'insulte pas les Togolais.
Alors, ma gloire, nous tous, nous réfléchissons. Que, hein, le communiqué du gouvernement, qui date déjà de une semaine, est loin d'avoir fait le silence sur cette affaire.
Non, même à l'époque, même moi, je disais à certains amis, en réalité, on ne devrait pas être surpris, n'est-ce pas, de ce communiqué du gouvernement, parce que en réalité, pour le gouvernement, accepter, n'est-ce pas, les irrégularités telles que révélées par la Cour des comptes, en réalité, c'est se faire acquérir sur le coup, c'est-à-dire automatiquement, ils doivent démissionner. Donc, que le gouvernement dise qu'il n'y a rien, bon, ça ne doit pas étonner, mais en vrai, dites-moi, une semaine après, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change avec même la sortie de l'OMS qui donne de la voix déjà? Vous vous rappelez que dans ce pays, il y avait eu déjà une affaire de, je crois, moustiquaire imprégné, et qui n'a pas du tout plu à l'OMS.
Déjà avec le Fonds mondial à l'époque.
Avec le Fonds mondial, on sait comment ça a pris fin. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, comme Jean l'a dit, on n'est plus à cette étape où il faut jouer avec le sentiment des Togolais. Quand on nous dit que tous les 8 millions de Togolais ont mal lu ce rapport, je dis, il faut se questionner. Plutôt, je me dis que ce serait bien de dire, ok, on prend acte, on prend du recul pour voir où est-ce que ça n'a pas marché, pour histoire d'améliorer ce qu'on peut améliorer. Mais botter, n'est-ce pas, à la touille, tout ce qui a été fait, d'abord, c'est fragiliser les institutions de la République, notamment la Cour des comptes, et encourager également ces prévaricateurs-là à croire que ben, nous sommes sur un terrain conquis, même si les institutions comme la Cour des comptes, avec des vous savez que c'est des, comment on les appelle, les juges-là.
Oui, des magistrats.
C'est des magistrats qui sont là. Avec toutes les années
accumulées. De grande expérience.
De grande expérience. Et on nous dit que ce travail qu'ils ont fait, mais ce n'est pas bien.
Oui, mais là, on va finir avec toi. Encore, tout se tient du rapport de la Cour des comptes sur la COVID-19, avec tous ces fonds que nous mobilisons ici à gauche et à droite, ces projets que le chef de l'État lance à chaque fois, mais dont les résultats attendent toujours la preuve. Il semble que, aussi bien à Tapaon, à Thiévier que à Takwame, des paysans ont eu le courage de lui dire que beaucoup de ces programmes en matière d'agriculture n'ont été que du pipeau.
Bon, vous savez, je crois quand même que on ne va pas revenir sur ce rapport parce que j'en ai suffisamment parlé la dernière fois et tout le monde a suffisamment lu ce rapport. Je pense que les uns et les autres doivent tirer toutes les conclusions et toutes les conséquences qui s'imposent. Vous savez, c'est un rapport qui a frustré beaucoup de Togolais parce que c'est inimaginable, c'est inconcevable qu'on puisse acheter 250 respirateurs à 4 milliards, qu'on puisse acheter des thermoflash à des prix d'or et qu'on fasse un logo à 15 500 000 pendant qu'on fait le logo du PND à 2 millions. Bon, ça dit que, bon, à un moment donné, il faut commencer à se poser des bonnes questions parce que vous prenez un programme national de développement porté par le gouvernement, on prime la personne.
Sur
5 ans, on prime le lauréat qui a fait ce logo à 2 millions. Hein, et encore qu'il n'est pas au Togo. Il est togolais, mais il a voyagé. Vous comprenez? Et puis on prend un logo Covid, on met 15 500 000. Bon, franchement.
Et puis, prenons ce logo, je ne te coupe pas, mais il n'y a aucune créativité. Les lions existaient déjà. Les flèches, même s'ils sont mal placées, elles existaient déjà. Bon. Les logos du microbe même, il existait déjà.
Le virus,
aucune ça innovation. Existait. Aucune innovation. Bon, qu'est-ce qui est nouveau maintenant qui
s'est coûté bon, donc, il faut savoir véritablement qui a véritablement passé ce marché et qui a gagné le marché. Ouais. Et à ce prix-là, il y a d'énormes écarts. Mais je crois quand même qu'au finish, on va attendre de voir comment ça va se passer dans les prochains jours parce qu'il y a une nouvelle autorité à la tête de la Plusia. On verra si Aplusia va se charger du dossier, faire les enquêtes et transmettre le dossier à la justice pour poursuite à donner.
Merci, il est 12h, pas de 4 minutes, toutes nos excuses. Nous avons pris 4 de vos minutes. Nous allons vous les restituer prochainement. Michel. 93.5. Eh bien, les deux numéros, vous les connaissez. Est-il encore besoin de vous le rappeler? D'autant plus que la ligne sonne déjà. Bonjour, l'ami en ligne.
Bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Ça va.
Ah, ça va bien. Bon, et ça s'il vous plaît, hein, c'est un sujet que vous n'avez pas débattu. Bon, je voudrais savoir si, excusez-moi, le chef qui a été arrêté, là, il a été libéré.
Le chef
de Bamono, là. Le Togolais américain qui a été.
De préférence, parlez-nous des sujets que nous avons discutés aujourd'hui. Nous serions beaucoup plus à l'aise. Merci, l'ami Senghor. Le suivant, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Pour une fille zone, là, il y a des gens qui partent pour prendre une fille zone à domestique. Mais pour le faire commercialiser, il faut retourner là-bas pour les formalités.
Donc, vous comprenez la position de Togocom?
Oui.
Ok.
Quand vous prenez quelque chose pour à titre individuel ou bien à titre domicile, il faut, quand vous voulez commercialiser, il faut retourner là-bas pour les formalités.
Ok, merci. Sinon, ailleurs, on parlerait de détournement d'objectifs, n'est-ce pas?
Oui, voilà.
Ok.
Pour ce qui est du rapport là, et la sortie du ministre là. Ça énerve, monsieur Sass. Les sacs de riz sont commandés pour être distribués. La sortie du ministre, il nous dit que c'est revendu. On ne comprend pas.
Ok, le ministre demande de lire le rapport dans son ensemble.
D'accord.
Merci, Sylvain. Beaucoup de courage. 86 pages avec les annexes. Le suivant, bonjour.
Ouais, ça, c'est toujours 5 heures de Valmini.
Oui.
Je voudrais, pour le problème du Grand Nord, là.
Oui.
Ce qui se passe avec les terroristes, là. Je voudrais lancer un appel à tous les Togolais. Nous devons apprécier nos genoux. La prière, c'est important. Mais voilà le deuxième point. Mais ce qui se passe, c'est que la population dans le monde, il faut que nous mettons les intérêts. Mais on tue nos prêts. D'accord, là-bas, mais il faut que le gouvernement, il ne faut pas qu'il dise que non. Quand il dit ça, la population aura peur, que les soldats seront. Mais c'est pas ça. Mais aujourd'hui, écoutez, avec Ismaëlo, les humains, tout ce qui se passe au Burkina avec l'Ibrahim, le président, il est la population. Mais comment est-ce que nous sommes au Togo, cette ennemie-là, cette ennemie-là, la semaine passée, voilà, tout est passé là-bas, et que nous sommes dans le noir.
Merci, c'est gentil. Ouais, voilà. Mais je pense que les compatriotes, ils ont besoin d'autre chose que la prière. Hein. C'est bien de prier pour eux, mais nous devons leur montrer notre solidarité par d'autres moyens touchables aussi. Allô, monsieur, allô. Bonjour.
Bonjour, Sass, comment ça va? Bonjour tout l'équipe.
Didier.
Oui. Bon, Sass, moi, je voulais commencer par le... Comment l'appelle-t-on? Arcep, là.
Oui.
Bon, si quelqu'un, vous avez fait quelque chose de privé, vous voulez transformer en truc, il faut retourner sur la personne qui l'a dit, l'autre truc, l'autre prédécesseur. Et puis, il faut aussi que l'ARCEP aussi, il applique la loi. Est-ce que ça le concerne, quelqu'un, les trucs privés comme ça le concerne? J'ai l'impression que, pour Togo Télécom, l'ARCEP est très dur. Honnêtement, ça, entre vous et moi, moi, je ne suis pas sur Togo Télécom, hein. Togo Télécom, 2 ans passés, et puis maintenant, quelle est la meilleure qualité? Ça a plus de qualité maintenant qu'avant. Pourquoi il ne parle jamais de Mou? Pourquoi il ne parle jamais de Bolloré, de Boss? Moi, j'ai les deux connexions à la maison, je vois comment je souffre. J'ai les deux connexions, je vois comment quand je suis sur Boss, comment est-ce que je souffre quand je vais sur Togo, que comment ça marche. C'est comme les anciens qui étaient à Togo Télécom, là, comme on les a retirés le bifteck, ils font tout pour mettre du bâton dans le roue de Togo Télécom. Secondo, pour le rapport là, moi je ne vois pas ce qui vous étonne. Parce qu'une fois, moi j'ai posé la question à notre ministre Ayouadan, que moi je les vois souvent dans les business class. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit que c'est à cause de la sécurité qu'il reste en business class. Rien ne m'étonne. Et puis, nous, on dit en notre minano, son CV à son écart. Nous, son CV à moyen, quelque chose qui dit comme ça. Mm-hmm. Mais là, la Cour aussi a manqué de courage. Au fait de tout ce que la Cour nous a fait comprendre, et en bas, la conclusion, il y a un problème. Eux aussi, ils manquent un peu de courage. Comment est-ce que moi je pourrais montrer? Moi, j'ai envoyé. Comment est-ce que je peux montrer ça à mon enfant? Tout ce qui a été écrit, et vers la fin, la conclusion me dit ça. Il y a un problème à leur niveau aussi. Il faut qu'ils soient courageux jusqu'au bout. Mm-hmm. Je vous remercie. Parce que le problème est tellement rusé. Il rentre dans les petits jeux, dans les petits trucs là, il pioche et puis, comme le ministre a dit, on prend le truc comme une carte. Lui, mais il a pris le truc, il a pris le rapport comme une carte de menu, il a choisi ce qui le plaît dedans et puis là, il réunit les autres. Je vous remercie.
Merci. Allô, Didier?
Oui.
Au bon abéré?
Oui.
Le Tchona Dadia, Tchona Fichan?
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Le suivant?
Allô, bonjour, monsieur Sassou.
Bonjour.
On appelle Martial, il vous appelle d'Afrique.
Pardon?
Je m'appelle Martial, je vous appelle d'Assigam.
Martial depuis Assigam.
Oui.
Eh bien, nous écoutons.
En fait, je voudrais m'adresser au conseil municipal de Godcat.
Oui.
Monsieur Sass, j'ai vécu une situation ce matin qui ne m'a pas beaucoup plu. On nous dit que les cités municipales se vendent de 6h à 11h. Et ça s'arrête. Maintenant, quelqu'un qui sort de la maison à 11h ou après 11h, on l'arrête maintenant que c'est le contrôle. Et on lui prend 500 francs. Et sans délivrer aucun reçu, aucun papier.
Le ticket même coûte combien?
150 francs.
Uh-huh. Et ça se vend de 8h à 11h.
Le ticket se vend à 150 francs.
Oui.
Maintenant, quelqu'un qui sort de la maison après 11h, qui n'achète pas le ticket maintenant, on l'arrête, on lui prend 500 francs. Et sans lui délivrer aucun papier justificatif. Bon, que là, c'est le contrôle.
Bon, la personne est sortie après 11h, mais elle est venue quand même au marché pour faire des affaires.
Pardon?
La personne est venue après 11h, mais il est venu au marché.
Oui, non, sur le boulevard du Mondo, c'est sur le boulevard du Mondo qui m'a arrêté.
Vous êtes sorti pour faire vos affaires sur le boulevard du Mondo?
Oui.
Bon, ok, c'est une information que nous venons de découvrir, nous allons creuser davantage. Merci quand même pour cette information. Le suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Ça,
oui.
Aucune personne n'est née avec un cuillère d'or dans la main.
En tout cas, moi, je ne suis pas né avec une cuillère.
Non, peut-être que vous êtes né avec un cuillère d'or dans la main.
Ah, donc, après que vous ne me connaissez pas.
Vous voyez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Togo est devenu, c'est-à-dire que c'est une risée, devient une risée. Surtout le rapport du gouvernement. C'est ça, moi, il te parle, hein. Mais c'est-à-dire que c'est une honte. Hein? De telle manière que, ça dit qu'aujourd'hui, le coup de compte a fait sortir un truc où aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement devait mettre un peu de l'eau et revenir en arrière. Surtout le chef de l'État qui va sortir. S'il ne sortait pas, le procureur de la République ou général, deuxième point, il y a la justice, le ministre de la Justice, qui devait sortir sur les antennes et parler d'une manière. Pourquoi? Pour apaiser la population. Maintenant, il vient et dit que non, rien n'a été détourné. Mais ça, c'est 10 mois, en tant que des hommes que nous sommes. Est-ce que ça peut avancer une république et une nation? Où les gens croient que non, nous allons faire tout. La nature parle et Dieu, même si Dieu n'existe pas, moi je le dis et je le réitère. Tout ce qu'on détournait, pas les 700 millions, hein, 19 milliards, tout ça, là, les 26 milliards, tout ces trucs-là, ils vont restituer ça, au nom du puissant de Jésus.
Eh bien, la preuve que Dieu existe, Dieu est là, il est là, Allah, il est là, il est là. Le suivant, bonjour.
Bonjour, Sal.
Oui.
Monsieur Garou.
Monsieur Garou.
J'ai deux messages pour Togo Télécom et la Cour des comptes.
Mm-hmm.
Vous savez, on est en guerre au nord là-bas. Je demande à la Cour des comptes de tout faire pour clarifier les choses, pour envoyer l'argent là aux militaires, pour s'équiper. Togo Télécom, vous avez trop surfacturé les appels, tout ça, ça suffit comme ça. Vous aussi pour envoyer de l'argent pour l'effort de guerre. Merci. Trop de conneries.
Merci. Ça, c'est M. Garo dans son style. Le suivant, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui.
C'est Bertrand.
Bertrand.
Oui.
Priez de parler un peu fort pour que nous vous écoutions.
C'est Bertrand.
Ok, allez-y.
Oui, c'est par rapport au sous-développement dont vous voulez parler de la région.
Parlez directement dans le microphone de votre appareil.
C'est par rapport au sous-développement.
Ou bien,
vous parlez par rapport à la région.
Vous êtes en déplacement?
La savane, non. Allô?
Oui, oui.
C'est la région des savanes.
Oui.
Vous avez bien fait de relever comme quoi il y a des ministres qui sont dans cette région, mais que rien ne se fait voir. C'est la preuve, n'est-ce pas, que les dirigeants là, ne sont pas là pour nous, mais uniquement que pour leur ventre. Après tout, bon, quand nous disons on nous est opposant, on n'a rien à foutre avec l'opposition. Comment est-ce que, par exemple, pour cette affaire de rapport, jusqu'à tout à l'heure, là, personne ne lève le petit doigt pour dire quoi que ce soit. Il y a eu des affaires de pétrole qui est dans ce pays, la route Lomé-Vogan, nos 5 francs qu'on a eu à prendre pour affaire de cadre. Vous allez en parler chaque 11 heures jusqu'à midi et demi dans ce pays par rapport à ce rapport-là, mais rien ne va changer. Après, d'autres choses vont encore arriver. Le Togo comme il va.
Merci, l'ami.
Allons-y seulement.
Merci. J'ai la foi que beaucoup de choses changent quand même et ça va changer davantage si
oui,
c'est notre conviction. Oui, bonjour.
Oui, allô. Bonjour.
Bonjour à vous.
Oui, j'aimerais participer à l'émission.
Vous y êtes, c'est monsieur
Monsieur Dieudonné.
Pardon?
Monsieur Dieudonné.
Dieudonné.
Oui.
Ok, nous vous écoutons.
Et je voudrais intervenir au sujet de Togo Télécom. Hein.
Togo Com.
Oui.
Oui.
Et je voudrais poser une question.
Parlez directement, s'il vous plaît.
Et combien de Togolais, hein, selon ce que nous pensons Togo, la situation actuelle, une solution internet et peut payer 15 000 fois par mois, au moins minimum. C'est une question. Et il y a des jeunes qui sont là, qui se battent pour s'entreprendre. Et maintenant, on vient doucement les couper. Et j'aimerais interpeller le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de prôner à la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, au même moment, on défend ces jeunes qui veulent entreprendre. Donc, pour ne pas trop parler, il faudrait que Togocom prenne ses responsabilités. En fait, si je prends l'exemple de la CET, si je prends une connexion qui ne me permet pas de vendre, c'est à moi d'aller vers eux pour chercher à augmenter le débit. Si vous prenez une connexion de Wi-Fi, une connexion au niveau de la société, si vous voulez faire à usage industriel, vous voyez que vous êtes incapable. Les statistiques, vous êtes insuffisants.
Le temps nous manque, mais ce que je sais, je n'ai pas les statistiques, mais je sais qu'il y a des Togolais qui vont s'abonner auprès de la fibre à Togocom ou ailleurs aussi. Mais ce que je sais aussi, un contrat, c'est un contrat. Si vous avez souscrit à un abonnement pour usage domestique, ça ne devrait pas être partagé à d'autres personnes à des fins commerciales. Ça, c'est quand même les principes de la vie. Maintenant, l'ARCEP clarifie les choses et situe chacun devant ses responsabilités. J'espère que on va trouver une solution qui arrange tout le monde. Eh bien, nous sommes de retour ici. Remercions encore beaucoup les auditeurs qui nous complètent et élargissent le champ de l'émission. Nous faisons juste la conclusion. Vous avez chacun une minute pour votre condensé. Oulo, Jean Legrand Polorini.
Bon, les auditeurs sont revenus un peu sur le rapport de la Cour des comptes et puis sur... Togocom, je crois que chacun a été servi. Si le message est tombé dans de bonnes oreilles, je crois que chacun fera ce qu'il faut faire. Et comme Michel a l'habitude de le dire, aujourd'hui il n'est pas là. Mais dans un pays où on ne punit jamais, on ne peut pas avancer, peu importe tous les montants qu'on va mobiliser. Je crois que l'objectif véritablement qu'on veut atteindre ne sera pas atteint parce que certains se diront qu'ils n'ont aucun compte à rendre. Ils se diront que même s'ils ne gèrent pas bien, il n'y a rien qui va les poursuivre. Et c'est ce à quoi les Togolais font face depuis plusieurs années. Et on attend véritablement de voir à quel moment le chef de l'État va taper du poing sur la table pour vraiment prendre ne serait-ce qu'une partie de cette minorité-là que lui-même a dénoncée en avril 2012. Les Togolais attendent de voir. En termes de carton, je n'ai pas de carton. Juste dire que je suis de cœur avec les populations de Kwendjal et notamment de Dapaon, eu égard à la crise sécuritaire qui frappe la zone. Et j'invite tous les Togolais vraiment à être de cœur avec cette zone parce que aujourd'hui c'est Kwendjal, mais si nous n'y prenons garde et si nous pensons que c'est le nord uniquement, l'intérêt du pays jusqu'à Lomé, nous ne sommes pas à l'abri.
Merci. J'ai la foi. Kwendjal tiendra. Nous aiderons Kwendjal à tenir parce que le Togo est un et indivisible. Teko Magloire?
Oui, il faut dire que je rejoins également un auditeur qui a dit qu'il tourne ses regards une fois encore vers la Cour des comptes pour situer les Togolais sur ce qu'elle voulait dire vraiment. Et je crois que c'est important parce qu'une telle Cour fait ce travail de fond et qu'on nous dise au travers d'un communiqué que tout est OK, tout est bon.
Non, c'est pas la Cour des comptes, hein.
Il y a la Cour des comptes d'abord.
C'est son rapport, c'est le gouvernement.
C'est ce que je dis. Oui. C'est-à-dire, la Cour des comptes
oui.
fait ses comptes, on va dire. Et le gouvernement vient derrière avec un communiqué pour dire que la Cour dit que tout est clair. Je crois que c'est ça. Mm-hmm. Maintenant, l'auditeur dit que lui, il tourne ses regards vers la Cour des comptes pour expliquer ce qu'elle voulait dire. Et je le rejoins parce qu'en réalité, on parle d'argent, beaucoup d'argent. Et cet argent, c'est aussi le contribuable togolais qui participe, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, la plupart de l'argent, ça ne vient pas d'ici nous, les partenaires nous aident. Et tout ça, c'est aussi, on va rembourser du jour au lendemain. Et donc, quand je vois la une des journaux où on parle des programmes d'urgence, de développement, où le PNUD donne 150 milliards, les partenaires de gauche à droite, la Chine, le Japon, on parle toujours d'argent. Et donc, c'est une occasion pour la Cour des comptes de signifier aux Togolais qu'elle est là, elle fera de grandes choses pour le Togo de demain. Et donc, c'est l'occasion dorée justement pour prouver à tout le monde que c'est une Cour qui est là pour faire un travail sérieux et qu'on ne saurait jeter sa crédibilité comme cela. Parce que les gens estiment qu'on peut agir comme on veut, comme on peut, et personne ne dira rien. Donc, une fois encore, je dis, la balle est encore dans le camp de la Cour des comptes. Si elle peut revenir pour dire, voilà ce que je voulais dire, je crois qu'une fois, les Togolais comprendraient mieux, puisqu'on dit qu'on n'a pas bien compris ce qu'elle voulait dire. Pour le reste,
oui.
Que Dieu veille sur le Togo.
Amen. Et l'homme Kossi?
Bon, moi, je vais rester dans le domaine d'éthique. Parce que, vous savez, on a beaucoup de problèmes déjà avec Timoni, et avec les services monétaires. Et aujourd'hui, pour faire Timoni dans certains quartiers, quand vous donnez 10 000 ans, vous devez ajouter 50 francs, ajouter 100 francs. Il faut que Togocom n'a pas fini de régler ce problème. Et on veut nous ajouter le problème des Wi-Fi zones. Franchement, il faut qu'on nous épargne de ça. S'ils savent exactement que les gens transforment l'usage domestique en usage professionnel, ils auraient dû sortir un communiqué pour dire « nous déplorons cela ». Et nous proposons des alternatives. Voilà les alternatives que nous proposons à ceux qui veulent ouvrir des Wi-Fi zones, par exemple. Dans le même communiqué, je pense que si le communiqué était aussi cohérent et clair, l'ARCEP ne réagirait pas. C'est parce que le communiqué est resté muet sur les alternatives qu'il propose aux Wi-Fi zones ou des gens qui veulent ouvrir des Wi-Fi zones que l'ARCEP a réagi. Donc, je pense qu'au niveau de leur service marketing et communication, ils ont fauté. Il faut revoir cela. Dans le prochain communiqué, mettez les offres alternatives que vous proposez aux Wi-Fi zones et demandez-leur humblement de souscrire à ces offres, et que c'est des offres promotionnelles, et ça vous honorerait plus, plutôt qu'un communiqué va-t-en-guerre comme cela. Je n'ai pas de carton, bonne journée à tous.
Aussi bien pour Togocom que pour la Cour des comptes, et que pour le gouvernement, et bien d'autres sujets, je crois que nous devons retourner à l'école de Boileau, qui écrivait déjà au XVIIe siècle, que ce qui se conçoit bien
s'énonce clairement.
Et les mots pour le dire
arrivent aisément.
Eh bien, allons à l'école de Boileau. Peut-être que nous nous comprendrons et nous nous ferons mieux comprendre. D'ici là, rendez-vous demain vendredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.